Chapitre 57. Gabriel a entendu du bruit. Il tient fermement le couteau, le poing serré sur le manche, et s'avance jusqu'à l'entrée de la grotte. De son point d'observation, il peut surveiller toute la vallée de la Cousse-Chambon, même si le rideau permanent de neige perturbe sa vision. Gabriel se dit que ces circonstances peuvent aussi être une chance. Presque rien ne bouge dans ce décor polaire. Aucun promeneur, aucune voiture, aucune vie. Il en repérerait aussitôt la moindre trace, la moindre tentative de survie. Elle se limite pour l'instant à deux corbeaux qui planent au-dessus de lui. Deux espions envoyés par qui? Tout en fixant l'horizon blanc, Gabriel traque également les bruits. C'est un craquement qui lui a fait quitter son abri. Trop puissant pour qu'il ne soit pas provoqué par un être vivant. Il ne bouge plus et écoute le silence. Était-ce un simple rongeur sorti de son hibernation et piégé par le dérèglement des saisons? Un renard? Un écureuil? Un campagnol? Ou un homme trop curieux? Gabriel reste encore aux aguets, mais ne perçoit plus aucun son, aucun mouvement. Tant pis. Il retourne en se contorsionnant vers le fond de la grotte, au sec, vers la chaleur à l'abri du vent. Bien sûr, comme tout le monde autour de Murol, Gabriel avait entendu parler des grottes de Jonas. Jonas. Encore une coïncidence. À moins que le prénom du père de Tom ait justement été choisi à cause de ces étranges cavernes volcaniques, taillées dans la falaise de tuf rouge qui domine la vallée. Gabriel s'est renseigné sur ces galeries troglodytes. Elles ont été creusées il y a plus de 2000 ans et forment un véritable immeuble préhistorique. 500 mètres de long sur 100 mètres de haut. 5 étages, 70 appartements. Un dédale où près d'un millier de personnes pouvaient habiter. Il a eu le temps de s'y perdre, de commencer à s'y repérer. Les quelques panneaux explicatifs l'ont aidé. Le site est fermé en hiver et il y a peu de chances de voir débarquer un touriste égaré. Il avance, courbé dans l'étroit boyau creusé, jusqu'à ce qu'il rejoigne l'une des cavités les plus isolées. Le four. Celle où il a déposé ses affaires. La douce chaleur de l'étroite pièce l'accueille. Une délicate odeur aussi. Il a laissé quelques châtaignes grillées dans la cheminée. L'âtre creusé dans le tuf fonctionne aussi bien qu'il y a 2000 ans. Il n'a eu qu'à allumer quelques branches, des fagots abandonnés, là, fermer la lourde porte de bois pour sécher ses habits, se réchauffer et attendre. Aucun risque, se dit-il, que la fumée le trahisse. Le ciel est trop couvert. Il crispe pourtant ses doigts sur le manche du couteau. Il doit rester sur ses gardes. Jusqu'à présent, il s'est bien débrouillé. Personne ne l'a vu. Personne ne peut se douter qu'il est ici. Il doit continuer ainsi, calmement, en réfléchissant. Décortiquer quelques châtaignes brûlantes à l'aide de son couteau, boire un peu d'eau et fouiller une à une les pièces. Il a déjà repéré les principales. La chapelle, le logis du maître, le grenier, le fournil. Il a inspecté une dizaine de chambres. Il s'y est déplacé sans bruit à la recherche de la seule pièce qui lui manque. Un nouveau craquement. Cette fois, Gabriel l'a entendu distinctement. Doit-il s'avancer à nouveau vers l'ouverture de la grotte? Ce n'est sûrement qu'un oiseau qui s'est posé sur une branche gelée. Peut-être un rongeur qui a flairé son odeur ou, plus vraisemblablement, a été attiré par la chaleur. Le plus raisonnable serait d'éteindre ce feu, de s'engouffrer ensuite dans de nouveaux couloirs et d'explorer de nouvelles pièces. De combien de temps dispose-t-il? Les gendarmes se sont-ils déjà aperçus de sa disparition? Qui ont-ils interrogé? Que leur a dit Maddy? Que leur a dit le docteur Kooning? Que leur a dit Aster la sorcière? L'a-t-elle dénoncé? Il sait qu'il doit, plus que jamais, se méfier. Si quelqu'un approche, qu'il s'agisse d'un lièvre, d'un chien, d'un humain, il doit être prêt à frapper. Il renonce aux châtaignes. Laisse mourir le feu, c'est trop risqué. En agitant son couteau à tâtons, devant lui, toujours accroupi, il avance vers l'un des couloirs. Il doit être prêt à frapper pour tuer. Tuer, quand il aura trouvé la dernière pièce qu'il n'a pas visitée. Une pièce aux quatre murs blancs, couverts de chaux. Le mouroir.